RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI bien sûr. Heureuse de vous retrouver tous en cette cinquième journée de Ligue des Champions avec Lyon. Lyon en piste, l'OL reçoit Manchester City dans son stade ce soir. Les Lyonnais vont-ils renouveler leur exploit de septembre dernier? Peuvent-ils battre à nouveau les Citizens, les surprendre? Les hommes de Pep Guardiola ont-ils envie, eux, d'une revanche ou se contenteraient-ils d'un match nul pour se qualifier? Une victoire, en tout cas, qualifierait l'OL et nous en parlerons. L'ogre bavarois, l'ombre de lui-même dans cette Bundesliga cette saison. Le club allemand aligne les contre-performances en championnat, ne convainc guère. Et son jeune entraîneur, Nicolas Kovac, est sur la sellette. Alors que le nom d'Arsène Wenger, son ombre plane au-dessus de lui. Pourquoi le Bayern ne gagne-t-il plus? À qui la faute? Nous essaierons de trouver la réponse. Enfin, lui aussi, c'est sur la sellette, lui aussi. Doit-il déjà être prolongé à la tête des Lions de la Teranga avant la CAN 2019? Là aussi, nous nous poserons la question et évidemment, nous la poserons à Habib Bey. Bonjour Habib.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
J'imagine vous déjà votre ma réponse. Oui, voilà. Mais bon, on pourra quand même en discuter parce qu'il n'y a pas qu'au Sénégal qu'on se pose ce genre de questions avant une grande compétition. Face à vous, il y a Patrick Juillard, autre personne qui pourra aussi donner une réponse.
J'ai ma petite idée aussi, oui. Bonjour Annie, bonjour à tous.
Bonjour Patrick Juillard et puis Naïm Moniol. Bonjour
Salut
Naïm.
Annie, salut à tous.
Nous allons rejoindre aussi d'ici peu Cédric de Oliveira, l'envoyé spécial de RFI du côté de Lyon. Radio Foot, c'est parti.
Et ils perdent des ballons, c'est inhabituel hein, chez les joueurs de Pep Guardiola.
On s'est fait kiffer. C'est bien, Nabil Fekir, ce qu'il fait. Il va fixer, il va frapper. Ouais
Non, ce n'est pas l'Islande, c'est bien le stade de Lyon à Lyon où il faudrait renouveler l'exploit. Le véritable défi pour l'équipe de Bruno Genesio ce soir qui avait marqué les esprits en début de saison, vous vous en souvenez sûrement tous, le 19 septembre en allant battre les champions d'Angleterre en titre dans leur jardin anglais de Manchester City. Depuis, eh bien, les deux clubs ont suivi des trajectoires différentes alors que les Citizens se sont bien installés en tête de la Première Ligue. L'OL occupe enfin la place de dauphin du PSG en Ligue 1 depuis ce week-end. Mais les Lyonnais déroutent par des prestations en dents de scie, capables de surprendre en bien comme en mal d'ailleurs, et surtout en Ligue des Champions. Après leur exploit, ils ont aligné les matchs nuls. Peuvent-ils donc battre aujourd'hui Manchester City? Peuvent-ils se qualifier? Déjà, on va poser la question à Cédric de Oliveira. Bonjour Cédric.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Cédric, dites-nous tout, la rue à Lyon, alors c'est un bien grand mot, mais en tout cas les supporters, les Lyonnais, les journalistes locaux qui écrivent dans la presse locale comme dans le Progrès, que disent-ils? Ont-ils confiance dans cette équipe? Ont-ils des doutes ou même ont-ils peur?
Eh bien Annie, il y a un certain optimisme ici à Lyon. On a croisé des supporters aujourd'hui qui avaient l'air convaincu que Lyon pouvait rééditer l'exploit du match aller. On l'a entendu avant, au début de cette émission, le joueur de Bruno Genesio qui s'était imposé 2-1 à l'Etihad Stadium. Alors attention, hein, tout le monde est bien conscient que City est largement favori, mais on se dit qu'une équipe si imprévisible que Lyon, avec elle, tout peut arriver. Elle est capable du meilleur comme du pire, comme quand elle a concédé ce match nul face à Hoffenheim il y a 3 semaines. De partout alors qu'elle jouait à 11 contre 10. D'ailleurs, une victoire lui aurait permis d'être déjà qualifiée. Mais à Lyon, on préfère croire bien que l'OL va montrer son meilleur visage. C'est ce qu'a martelé Bruno Genesio hier en conférence de presse, qui veut que son équipe soit ambitieuse dans le jeu, qu'elle ne se recroqueville pas sur son but. C'est comme ça qu'elle peut déstabiliser City. Jason Denayer, le défenseur lyonnais, a dit à peu près la même chose. S'il y a une faille, on l'exploitera au maximum. On y croit donc à Lyon, surtout si Nabil Fekir, qui est incertain, joue ce soir. C'est d'ailleurs sur lui que s'est attardé regardé le quotidien local, Le Progrès, Fekir qui avait été brillant au match aller avec un but et une passe décisive. Alors si Lyon veut gagner, il lui faudra évidemment un Nabil Fekir en forme. Fekir qui est sorti à la mi-temps par précaution vendredi lors du derby face à Saint-Etienne, remporté 1-0. Son entraîneur était optimiste sur sa participation. On l'a vu faire quelques exercices hier à l'entraînement. Il n'avait pas l'air gêné plus que ça. Alors pourrait-il le reproduire en match? Eh bien, c'est la grande question.
Bon, ben voilà, pour ce qui est du panorama de ce match et du contexte. Avant de parler plus particulièrement de Nabil Fekir, on va l'écouter, Bruno Genesio. Vous étiez à sa conférence de presse hier, parce que, évidemment, sans être trop, disons, prétentieux, il a quand même pas dissimulé ses espoirs.
Manchester City fait partie des favoris de la Champions League, pour moi. Un des trois ou quatre favoris. Donc, pour nous, ça a été un exploit de les battre à l'aller. On va aborder ce match avec beaucoup d'humilité, bien sûr, mais aussi beaucoup d'ambition, parce que je pense que c'est certainement le seul moyen de les inquiéter de nouveau. Après, on sait très bien que sur ce match, ça sera difficile, mais on l'a déjà fait, donc il faut croire en nous. Mais pour revenir à votre question, je pense que c'est une des meilleures équipes européennes et certainement une des équipes favorites pour la victoire finale.
Voilà, alors, cette équipe imprévisible qui est celle de Bruno Genesio, Habib, évidemment, elle peut faire le mieux comme le moins bien, mais que pensez-vous qu'elle puisse faire ce soir ?
Elle peut faire le mieux, puisque déjà on est dans un grand match de Ligue des Champions. Après, moi je vais remettre en question le mot exploit, parce que lorsqu'on voit la performance de City au match aller, on peut pas considérer que la victoire de Lyon était un exploit. C'était une grande victoire de la part des Lyonnais. Aujourd'hui, on peut pas considérer
un exploit. Pourquoi ? Vous pensez que finalement ils les ont surpris ?
Parce que c'était la première fois que je voyais quatre joueurs qui sont d'habitude à 90% de passes réussies en dessous de 70%. Je pense à Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho et Gundogan, qui ont fait un match catastrophique contre Lyon. Alors dû aussi à l'organisation des Lyonnais. Même lorsque City est embêté, ils ont toujours un ratio qui est bien supérieur à ça.
C'est-à-dire qu'ils les ont pris de haut aussi.
Et puis ce jour-là, il faut se rappeler que Pep Guardiola était dans la tribune, et c'était justement Arteta qui était au bord du terrain. Alors je dis pas que ça a une influence énorme, mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas considérer que Lyon ait fait un exploit au vu de la performance de City au match aller. C'était un grand résultat et ils sont sûrement capables de le rééditer. Moi, je pense que le City que Lyon va rencontrer ce soir sera bien plus armé, sera bien plus concentré, sera bien plus impliqué par rapport à cette rencontre. Et encore une fois, je ne vois pas Pep Guardiola rentrer dans cet état d'esprit de dire un point, ça nous suffit. Un entraîneur qui va de toute façon jouer la victoire, et je suis beaucoup plus inquiet pour Lyon par rapport à la performance de City ce soir.
Restons justement du côté lyonnais avec vous, Patrick. Lyon, sur quelle dynamique est-il véritablement ? Ils viennent de remporter le derby, mais c'était quand même un peu à l'arraché, même s'ils ont fini à 10 et qu'ils l'ont remporté sur le score de 1-0. Ils sont deuxième de Ligue 1, mais est-ce que tout ça signifie quelque chose ? Et surtout, est-ce que c'est comparable finalement ? Mais dans le contexte de leur dynamique à eux ?
Mais vous avez employé un terme très juste tout à l'heure, c'est que Lyon est une équipe imprévisible.
Alors, Cédric le disait aussi.
Irrégulière et donc imprévisible, voire peut-être imprévoyante parfois. C'est-à-dire que
aussi.
C'est une équipe qui est, par rapport à son déséquilibre vers l'avant, elle n'a pas assez de sécurité défensive, je trouve. En plus, vous parliez du derby, effectivement, le score est à la limite un peu flatteur pour Lyon sur ce match, puisqu'ils gagnent 1-0, mais ils auraient très bien pu ne pas gagner. C'était quand même pas une masterclass, c'était pas une démonstration, et c'était pas non plus un derby des plus tendus. Il y a des derbys parfois au couteau, très durs. Là, c'était relativement confortable à ce niveau-là, et pourtant, Lyon n'a pas su beaucoup emballer le match. Et cette équipe-là, moi, je n'arrive pas à la saisir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas par quelle boule à prendre. Autant l'an dernier, il y avait quand même des lignes de force. Il y avait un petit peu quand même une idée de jeu qui se dégageait au fil des matchs. Là, je trouve qu'on n'y arrive pas. Et ce qui est terrible, si on reprend le match aller, c'est que Lyon a fait un match vraiment référence au match aller, tactiquement parlant.
Et on a l'impression
qu'ils n'ont pas construit
une première mi-temps référence.
Ouais, mais c'est déjà beaucoup.
Une première mi-temps où tous les joueurs dont on parle aujourd'hui à Lyon, les joueurs qui sont là pour faire la différence, ont été à leur max. C'est-à-dire qu'on avait un Depay exceptionnel en termes d'intensité et de pressing.
Faut pas oublier quelque chose.
Rien n'a été construit là-dessus. City a su tout corriger.
Quand tu remets en cause la notion d'exploit, ce que je peux comprendre, faut quand même pas oublier que Genesio, il arrive avec Diop, avec Cornet, avec une équipe complètement remaniée, ce qui, accentue quand même le côté exploit de ce match. Je suis d'accord sur le fait que City n'ait peut-être pas été au niveau.
En France, on, dès qu'on a une, j'ai l'impression que dès qu'il y a une performance d'un club français, c'est un exploit.
Non, mais c'est pas ça.
C'est un exploit parce que tu n'as, tu n'as aucune équipe française capable d'être régulière.
Oui, mais
moi, c'est normal que quand tu fais d'épopée en épopée, c'est normal que quand tu as une victoire référence face à un gros d'Europe, tu parles d'exploit, même si sur le contenu du match, je peux être d'accord avec toi.
Voilà, c'était quand même Lyon face aux champions d'Angleterre en titre et on sait combien vaut ce titre-là.
Si vous prenez la définition d'un exploit, c'est quelque chose dont on se rappelle dans 10 ans, 15 ans. Je suis désolé.
Tu t'en rappelleras dans 10, 15 ans.
Mais bien sûr, de Lyon qui a battu City, tu te rappelleras si demain
ça
Lyon
dépendra va du
en finale de Ligue des Champions, tu vas te rappeler de ces exploits-là.
Tu te rappelles toujours aujourd'hui des victoires contre le Bayern à l'époque de Jovan Elber ou des victoires contre le Real.
Oui, mais c'est pas pareil. C'est en quart de finale de Ligue des Champions. Donc c'est des faits marquants. Là, on est sur des matchs de poule. C'est-à-dire que la performance, elle existe. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, si tu considères que les clubs français ne peuvent pas battre ces équipes-là.
Sur le jeu, ce que tu dis est vrai. Mais moi, je vais dire pourquoi, pour moi, c'est un exploit. C'est que, en fait, le vrai problème de cette équipe de Lyon, c'est qu'elle a zéro leader. Quand on parle des problèmes de sécurité, s'il y a bien un secteur dans lequel il y a un peu d'expérience à Lyon, c'est derrière. Ils ont Raphaël, ils ont Morel, ils ont Marcelo.
Denayer,
il est jeune. Donc, à la rigueur, l'expérience, et Lopez, il a aussi de l'expérience. Donc, à la rigueur, derrière, il y a de l'expérience. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de leader. Vous n'avez pas un joueur qui est capable de mobiliser tout le monde. Fekir n'est pas ce joueur. C'est un très beau joueur de foot. C'est
il
le capitaine.
Joue qu'un match sur deux,
mais il joue pas beaucoup. Et puis en plus ça, c'est pas un type qui fédère. Je crois pas que Fekir ait de l'autorité sur Depay. C'est pas vrai. Depay, il fait ce qu'il veut dans l'équipe. Et je suis pareil pour Bertrand Traoré. C'est un super joueur, mais il est foufou et personne ne le remet à sa place. C'est l'équipe qui a pas de leader.
Genesio l'a un peu fait, là, quand même.
Il a un peu fait. Si vous prenez les deux matchs au Hoffenheim, les 4 points perdus dans le temps additionnel, c'est une équipe qui se déconcentre. Qui se déconcentre parce qu'il y a pas un mec là-dedans qui est capable de mobiliser tout le monde 95 minutes. Sur le jeu, moi, je crois que dans le jeu, Aouar, Depay, Fekir et même Bertrand Traoré quand il décide de jouer avec son cerveau, c'est des mecs qui sont capables de bien jouer au foot. C'est des beaux joueurs de foot à Lyon, il y a du talent. C'est pas Marseille, c'est pas Monaco, il y a beaucoup de talent à Lyon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de talent sur 90-95 minutes parce qu'ils n'ont pas les joueurs, les leaders pour maintenir cet état de forme 95 minutes.
Habib, c'est un manque de leader sur le terrain, vous êtes d'accord avec
Naïm? Ah oui,
Naïm,
complètement d'accord avec Naïm, je pense qu'on a soulevé le
problème. Il manque de quelqu'un, effectivement, quand on les voit gagner à Hoffenheim pendant un long moment à 2-0 et tout d'un coup.
Ne pas tenir
le match dans les dernières minutes.
Ce qui est paradoxal, et c'est ce que dit Naïm, c'est que lorsqu'on compare, par exemple, l'équipe de Lyon qui a tout raflé sur le plan national il y a quelques années, l'équipe contre laquelle j'ai joué lorsque j'étais à l'Olympique
de champion de France.
C'est-à-dire qu'il y avait aussi du talent, mais par contre, il y avait des personnalités. On se rappelle aujourd'hui, il y avait des Diarra, il y avait des Malouda, il y avait des Juninho, il y avait des Chris, il y avait des Cassapa, c'était des joueurs qui avaient de la personnalité. Et pourquoi ces joueurs-là sont allés très très loin en Ligue des Champions? Pourquoi ces joueurs-là ont enchaîné des victoires en Ligue 1 pendant 7 ans et aujourd'hui on dit que c'est impossible de gagner la Ligue 1? Monaco a prouvé le contraire. Lyon a quand même gagné 7 titres d'affilée, ils ont eu des références aussi en Ligue des Champions grâce à ces joueurs qui avaient du talent mais qui avaient énormément de personnalité. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de se taper les uns sur les autres, je parle sur l'aspect un peu plus psychologique que physique, mais qui étaient capables de se remonter, qui étaient capables lorsque c'était difficile de remobiliser les troupes, et ça Lyon a du mal à le faire. Et c'est toujours Genesio en fait qui le fait.
Et moi je vais te dire que cet état d'esprit de guerrier, de bagarreur, là où Lyon a pas été très intelligent, c'est de se séparer des mecs formés au club, parce que les Tolisso, les Lacazette, les Gonalons, avec tous les défauts que tu peux leur trouver.
Économiquement,
c'est une chose. Mais avec tous ces joueurs-là, tu avais cet esprit lyonnais parce que c'était que des mecs formés au club. Là, t'as récupéré des joueurs de l'extérieur.
Il y a quand même des joueurs lyonnais.
Aouar, il a 19 ans. Le seul là-dedans qui a encore un peu de charisme et de caractère, c'est Lopez. Il ne le traduit pas toujours très bien, mais Touzard n'est pas formé.
Naïm, à l'époque, c'était pas des joueurs non plus de l'Olympique lyonnais qui ramenaient cette grinta, les Juninho, les Chris, les Cassapa.
Avec l'évolution, quand Lyon est redevenu une équipe entre guillemets lambda, quand elle a arrêté de survoler la France, c'est là-dessus que Lyon s'est appuyé sur la formation depuis 10 ans, c'est ça qui fait tourner Lyon.
Cédric, vous avez aussi peut-être lu ou entendu cela, un manque de leader sur le terrain?
Un manque de leader, ça c'est une certitude. On peut revenir sur le match aller. Alors le match aller qui avait quand même été remporté, il y avait tous les joueurs de champ qui avaient 24 ans ou moins. Donc c'est pour ça que la performance reste quand même à noter. Hein. Mais c'est vrai qu'il manque en tout cas des joueurs, en tout cas qui peuvent stabiliser tout ça. C'est vrai qu'il y a que Bruno Genesio en ce moment qui recadre les troupes. Tout à l'heure Nabil a dit au sujet de Bertrand Traoré. Effectivement, que
c'est naïf, en fait.
Ah, c'est Naïm. C'est pas grave.
Excusez-moi, mais en tout cas, voilà, Bertrand Traoré, on comprend pas trop, il a beaucoup de talent, mais c'est vrai qu'il n'arrive pas à faire la différence à Lyon. C'est vrai qu'il pourrait eh bien rendre service, en tout cas, à cet Olympique Lyonnais. Mais Bruno Genesio, c'est lui qui tranche et sur le terrain. Tanguy Ndombele, par exemple, il est très talentueux, mais voilà, il est encore un petit peu jeune. Et on sent que c'est pas le patron sur le terrain.
Ouais. Alors, en tout cas, vous disiez que City a tenu compte de sa mauvaise performance cette fois-là. Effectivement, depuis le 19 septembre, City, c'est 3 buts encaissés pour 42 marqués, évidemment, toutes compétitions confondues, alors que Lyon, c'est 19 buts encaissés pour 25 buts marqués. Et écoutons, comment Pep Guardiola aborde ce match avec son équipe du côté, justement, des Citizens.
Personne n'a la garantie que sa manière de jouer va lui faire gagner la Ligue des Champions. Personne ne peut me dire que jouer plus prudemment, plus défensif, va m'aider à gagner la Ligue des Champions. Je préfère que l'on joue comme on le fait actuellement. Et mon travail est de convaincre les joueurs de me suivre. Ce qui compte, c'est de s'adapter. On fait ça à tous les matchs en fonction de la qualité des joueurs qui sont en face de nous. On va jouer contre l'OL qui a de très bons joueurs devant, mais aussi une bonne assise défensive. On connaît le foot français, les équipes sont bien organisées. Les Français ont gagné la Coupe du Monde en étant si solides défensivement. Donc, on doit s'adapter.
Ces statistiques que cherche pour nous Anton Tabet, qui est un de nos jeunes stagiaires, il nous me disait aussi comme statistique, parce que Pep Guardiola parlant de cette offensive le côté offensif de Lyon, Fekir depuis ce fameux match de City, c'est 2 buts marqués pour 3 passes décisives en 8 matchs, alors que par exemple David Silva, c'est 3 buts dont 3 sur les 3 derniers matchs et 2 passes décisives en 8 matchs.
Là vous prenez la comparaison la plus défavorable possible à Lyon, exactement. Puisque Fekir est le joueur offensif le moins en forme à Lyon, si on met à part le cas de Bertrand Traoré,
mais
qui
David
est
Sylvain
un
n'est
peu
pas
mis au placard depuis 2 semaines. Mais moi pour aller un petit peu plus loin, pour moi, le problème de Lyon, on parle d'individualité, on dit qu'ils ont de bonnes individualités, notamment offensivement, c'est vrai, mais compter à ce point-là sur les exploits individuels, ça cache aussi une faillite en termes de jeu collectif. Il y a un manque de fond de jeu à Lyon. On ne sait pas comment cette équipe joue.
Habib, sur Manchester City, vous vouliez rajouter quelque chose au propos de Pep Guardiola, lui aussi, qui dit on va voir comment on se comporte. Enfin, on s'adapte sur le terrain, évidemment. C'était l'importance qu'il ne soit pas là, vous le disiez tout à l'heure.
Oui, très important. Je me rappelle que j'étais descendu à la conférence de presse puisque j'avais commenté le match à City. Il y a un journaliste qui avait demandé à Mikel Arteta, est-ce que le fait que Pep Guardiola ne soit pas sur le banc et soit en tribune a changé l'état d'esprit peut-être des joueurs? Il a dit forcément, lorsque Pep n'est pas sur le banc, ça change quelque chose. Après, il faudra poser la question aux joueurs, mais bien sûr qu'on préfère avoir Pep sur le banc qu'en tribune. C'est quelqu'un qui, même lorsqu'il ne parle pas, a une emprise sur son équipe, dans sa gestuelle, dans tout ce qui... Bien sûr, c'est un état d'esprit qu'amène aussi Pep Guardiola. On pense que c'est juste la tactique, mais c'est des regards, c'est des gestes de la main. Et son équipe, aujourd'hui, elle est forcément plus performante avec lui que sans lui. Ça veut pas dire qu'Arteta n'a pas été bon dans son management, mais c'est vrai que City, sur ce match-là, ils m'ont paru à mort, c'est-à-dire qu'on a vu des joueurs qui étaient beaucoup moins investis, beaucoup moins concentrés que d'habitude, donc la tâche va être beaucoup plus dure pour les Lyonnais ce soir.
Cédric de Oliveira, ces deux équipes, peut-on soupçonner, vous qui avez été écouter les entraîneurs hier, qu'ils soient calculateurs, parce que finalement un match nul pourrait arranger Manchester City qui serait qualifié, et qui sait, pourrait peut-être même arranger Lyon?
Ah bah je peux vous dire qu'en tout cas, du côté de City, on ne sera pas vraiment calculateur, parce que justement, Pep Guardiola, il n'a pas du tout oublié le match aller. Il avait dit justement en conférence de presse, ils ont été meilleurs un temps au-dessus. En tout cas, lui a dit qu'ils ont beaucoup appris de cette rencontre. D'ailleurs, ça s'est matérialisé après avec la série que City vient de faire. Donc Guardiola, il vient pour gagner, même s'il lui manque pas mal de joueurs. En tout cas, c'est l'objectif, ramener les 3 points de Lyon. Et puis à Lyon, on ne peut pas se contenter d'un match nul, puisque si jamais Hoffenheim bat Shakhtar, il sera à la merci d'une performance allemande lors du dernier match.
Oui, ouais. Ça serait quand même bizarre, surtout de la part de City, rentrer sur le terrain en calculant pour un match nul.
C'est ni dans la mentalité de Guardiola, ni de City, mais même de Lyon. Il n'y a pas de calcul à faire sur un match comme ça. Le groupe est trop serré, parce que s'il y a un match nul et qu'Hoffenheim bat Shakhtar, ils reviennent à un point. Et comme même personne ne peut dire ce que fera Lyon en Ukraine à la dernière journée, parce que vous voyez les deux matchs contre Fenerbahçe et le match aller contre Donetsk. Donc il faut gagner, il faut se mettre un maximum en sécurité et à l'abri, il faut gagner ce match. Même si là je suis d'accord avec tout ce qui est dit autour de la table depuis le début de l'émission, évidemment, City est favori, la tâche va être très très compliquée pour Lyon, mais il faut gagner.
Ouais. Donc ça sera tout à l'heure et on vous retrouvera, Cédric de Oliveira, après ce match dans l'autre édition de Radio Foot International. Merci beaucoup.
À tout à l'heure.
Et bon match. À noter, on s'est amusé à regarder sur Twitter, notamment il y avait ce message de Nabil Fekir, hein, disant ce soir il y a le match, donc on imagine avec des images de lui jouant le match aller, donc peut-être qu'il sera sur la pelouse. Hein, on a des doutes, c'est parce qu'il avait eu un problème aux adducteurs, il est sorti à la mi-temps lors du derby.
Apparemment, le problème n'est pas si important que ça.
Non.
Non, apparemment, il a filtré que il était pas bon du tout en première période lors du derby, il faut le dire, et que il n'y avait pas une grosse alerte en fait sur le plan musculaire. C'est que ça a été aussi lié à sa performance de la première période pour décider de le remplacer. Il a lui dit que tout allait bien. Même quand on l'a interrogé après le match, il n'a pas dit qu'il était blessé. Il a dit qu'il a ressenti quelques tensions. Mais je pense que c'était plus lié à son rendement que à sa blessure.
Ça date peut-être du rassemblement de l'équipe de France et peut-être qu'il n'a pas exactement dit précisément comment il était médicalement à son retour au club.
Bon, en tout cas, on verra s'il est sur la pelouse, feuille de match tout à l'heure. Celui qui est heureux aussi sur les réseaux sociaux, c'est Memphis Depay, heureux d'avoir passé le cap des 5 millions de suiveurs et du coup, ça le fait chanter. Hey. 5 million talking followers. The new deal's gonna follow up. Call my agent, told him double up. Price real, we don't talk a lot. I bet his streets are going viral. They be asking who's my idol. Boy, really got no idol. Cause the world messy, no light. I read a post to pick off the Bible. Nation League seals pushing for the final. Every game is a final. C'est ni en néerlandais ni en français, c'est en anglais.
C'est très, je trouve que c'est pas mal du tout, c'est très West Coast, c'est très sympa.
C'est bien, si c'est demain une star du rap qui fait ça, on est tous en train de se dire, c'est un hit.
Non, il a une jolie voix, c'est bien.
Il a une deuxième carrière qui l'attend.
Bah, franchement, ouais, moi je trouve que c'est très très bien. Moi qui écoute un petit peu de rap de temps en temps, je trouve ça très très bien.
Merci à Laurent et à ceux qui ont grappillé ça du côté des réseaux sociaux et à Samuel aussi, autre stagiaire. On est riche en stagiaire en ce moment à Radio Foot. Voilà, match sera à 20h en temps universel et nous en parlerons donc tout à l'heure dans la deuxième émission. 17 clubs are determined. We are Bayern, we want to be in the first position always to dethrone the champions. Bayern München have rewritten the record books. But now a new campaign is going the Bundesliga. Und der ist schnell und behält die Übersicht und macht das Ding 2-3 aus Düsseldorfer Sicht. Todi Luque Bacchio. Et voilà, on part du côté de la Bundesliga et un triplé pour l'international belge Dodi Luque Bacchio, je le dis bien. Hein. C'est un joueur qui est passé par Toulouse d'ailleurs, on a
qui
vu.
Qui est passé
tout
par Toulouse, qui avait peu joué, qui avait même été sélectionné par la RD Congo avant d'opter par la suite pour la Belgique. Mais il est international espoir, hein, je crois uniquement.
Donc, en tout cas, il est sous les couleurs pour l'instant de Düsseldorf et il a marqué ce but important puisque c'était un triplé et c'était surtout le but égalisateur face au Bayern Munich. Voilà les Bavarois à la 5e place de la Bundesliga, hors des places qualificatives en fait en Ligue des Champions. Alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est super rare, non, de voir le Bavarois à peine à la peine. J'ai des statistiques, toujours Anton Tabé qui nous a trouvé ça. La dernière saison où le Bayern n'a pas été champion, alors ça on s'en souvient, c'était 2013, ouais. C'était le Borussia Dortmund. Donc ça veut dire que ça remonterait à 2000, avant 2013. Mais surtout, la saison où ils n'ont pas été sur le podium, eh bien c'était en 2006-2007. Ils avaient fini à leur quatrième et sinon il faut remonter à 1995. Donc c'est hyper rare.
À l'époque d'Off's Hollywood.
C'est bizarre parce que ces dernières années, enfin ça faisait partie des championnats, cette Bundesliga, où on se disait...
C'était réglé facilement. Voilà. Ouais. Bah, c'est la crise.
À l'époque de Pep Guardiola, on avait eu une équipe sacrée, je me souviens, c'était au mois de mars. Hein, on se souvient qu'après, ils étaient un peu sortis de leur concentration, on va dire.
Et c'est la crise au Bayern. C'est la crise, tout simplement. Il y a une crise
de
résultats.
Mais la crise de quoi?
Il y a une crise de tout. Il y a une crise de résultats, évidemment. Et puis, il y a une crise autour de Niko Kovac, qui ne tient pas son vestiaire. Pour des infos que j'ai, a priori, il y a certains cadres qui ont remis en cause son autorité. Alors peut-être que le problème quand on fait venir des entraîneurs comme ça dans des clubs comme ça, c'est qu'on leur demande pas d'entraîner, on leur demande de manager. Aujourd'hui, tout le monde tombe sur le jeu, et c'est vrai que le jeu du Bayern n'est pas bon. Le vrai problème, c'est qu'il manage pas les stars parce qu'il a pas l'habitude de ça.
Est-ce qu'il reste quelque chose du jeu instauré par Pep Guardiola au Bayern?
Bah non, parce que le jeu de Pep Guardiola, c'est
tiens à Pep Guardiola.
Comment?
Il tient à lui.
Il tient à lui, bah après on le voyait aussi un peu sous Jupenkes, c'est-à-dire que ça jouait très vite en une deux touches de balle, ça conservait peu le ballon, ça jouait très vite vers l'avant. Aujourd'hui on a perdu ça, c'est une équipe qui se déséquilibre tout de suite à la perte du ballon, avec peu de mouvement autour du porteur, c'est une équipe qui joue très mal. Il y a un problème aussi de management, parce que je vous le disais, il tient pas son vestiaire, ça marche pas avec certains cadres, on l'a encore vu là ce week-end sur certains comportements défensifs de joueurs qu'on a un petit peu rien à faire. Donc voilà, c'est une erreur de la direction, qui ont pris Kovac en deuxième, troisième choix parce qu'il voulait au début Tuchel, puis finalement comme il est parti à Paris, il voulait prendre un mec en Allemagne qui gagne, et celui qui venait de gagner la Coupe d'Allemagne contre le Bayern, c'était Kovac avec Francfort. Donc ils l'ont pris un petit peu en deuxième, troisième choix. Lui, il arrive, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, c'est pas
c'est
un mauvais entraîneur.
C'est un ancien joueur du club aussi.
Bien sûr, ouais, il a fait une saison là-bas, une saison ou deux. C'est pas un mauvais entraîneur, il a fait de bonnes choses avec Francfort. Mais dans ces clubs-là, on ne demande pas d'entraîner, on demande de manager des stars. Et ça, il n'y arrive pas.
Écoutons-le d'ailleurs, Niko Kovac, parce qu'évidemment, il le sait, qu'il est très contesté, qu'il est critiqué, voire même cerné, hein, par les rumeurs de son renvoi prochain. En tout cas, lui, il se déclare, il déclare se concentrer sur sa tâche.
Das Wort.
Les mots « baisser les bras »,« abandonner »,« hisser le drapeau blanc » n'existent pas dans mon vocabulaire. Ceux qui me connaissent savent que je suis un combattant, peu importe où je suis et le contexte qui existe, je regarderai toujours de l'avant.
Alors voilà, pour ce qui est de Niko Kovac, ne pas baisser les bras, effectivement, c'est pas simple, Habib, quand on est à la tête d'une équipe et qu'on se retrouve cerné par les critiques et puis que les résultats en championnat sont ce qu'ils sont.
Oui, mais c'est un petit peu dans ce que fait le Bayern depuis maintenant plusieurs mois, je dirais même...
Au moins deux saisons.
Par rapport aux années, on se rappelle du fait qu'ils aient débarqué comme ça très
Ancelotti.
Vite, Ancelotti. Mmh. Ils étaient plus concentrés à critiquer les projets du Qatar, de City, du Paris Saint-Germain, par rapport à ce que faisaient eux très très bien les années passées. C'est vrai que Kovac, c'est assez bizarre de le voir arriver au Bayern Munich. C'est une équipe qui est vieillissante, qui ne s'est pas renouvelée, même si aujourd'hui on peut dire qu'un Franck Ribéry est un bon joueur, un Thomas Müller est un très bon joueur, mais c'est une équipe qui n'a plus le rendement qu'elle avait. Les Boateng, lorsqu'on voit cette défense, elle a pris déjà 17 buts en 12 journées, alors qu'on connaît que sur tous les entraîneurs qu'ont connu les joueurs du Bayern, que ça soit Inkes, que ça soit Guardiola, c'était souvent la meilleure défense du championnat. Ils étaient impressionnants offensivement, là c'est pas du tout le cas. Les gens ne prennent plus de plaisir à regarder le Bayern jouer alors que c'était une machine plus ou moins infernale. Et puis ne pas oublier qu'il y a des joueurs majeurs qui ont quitté cette équipe aussi au fil des années.
Et que
ces référents dont on parlait tout à l'heure, dont a besoin une équipe aussi pour s'identifier, peut-être que ces joueurs-là ne sont plus dans le rôle. Mats Hummels sur le banc, par exemple.
En plus, il joue de malchance parce qu'effectivement, il y a énormément de blessés. Mais j'aurais une question peut-être, Habib. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe au Real Madrid pour vous? Une espèce de creux. Alors, sur les sélections, on parle de creux générationnel. Là, peut-être un creux d'encadrement et une transition qui n'a pas été bien amorcée.
Oui, mais la transition, sauf que c'est vrai qu'on peut faire un parallèle, mais par contre, le Real Madrid a quand même gagné 3 Ligues des Champions avant de faire cette transition et ce moment de creux. C'est vrai qu'on sait que ces grands clubs existeront toujours. C'est dans leur ADN et on sait que le Bayern reviendra sûrement dans quelques années à son meilleur niveau. Mais ces transitions-là, elles sont importantes. Et ces transitions, elles sont liées parfois à un départ d'un joueur important. Pour le Real, c'est ça. Pour moi, le Real, c'est la seule identification qu'on peut avoir par rapport à leur problème, c'est le départ de Cristiano Ronaldo.
Mais pour moi, le mal du Bayern, et je vais dans le sens de ce que dit Habib, c'est le conservatisme. C'est-à-dire que cette équipe, depuis 2014, elle est championne chaque année, hein, si je me trompe pas.
Mm-hmm. Pratiquement depuis aussi
elle
depuis
a gardé,
2013,
voilà,
triplé.
Oui, c'est ça, oui, 2013, pardon. Donc ça fait 6 sacres de suite.
2014.
13 ou 14, je sais plus, mais ça fait 5 ou 6 sacres de suite.
Mm-hmm.
Elle a gardé exactement la même ossature, qui vieillit de plus en plus. Et des joueurs comme Müller, des joueurs comme Ribéry, des joueurs comme Robben, soit ils sont de moins en moins bons, soit ils sont de plus en plus blessés, les deux.
Ça fait un peu penser ce qui arrive aussi à la sélection allemande, parce que c'est les mêmes.
Et il y a un problème, je pense aussi, comme la sélection allemande, il y a un problème vraiment fréquent pour le Bayern, c'est le manque de rotation offensive. Lewandowski fait presque tous les matchs. Alors, cette année, ils ont lancé Gnabry. Mais c'est quand même pas le même niveau, c'est pas un tueur face au but comme Lewandowski.
C'est pas le même poste,
voilà, c'est plus un all-rounder, enfin un milieu offensif qu'un attaquant de pointe. Et finalement, C'est un peu comme l'Allemagne, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir beaucoup de possessions envoyées du jeu, mais ils marquent trop peu par rapport à ça. Et puis en plus, les joueurs qu'ils ont achetés comme Süle ou Goretzka, pour l'instant, ils font pas encore oublier ceux qu'ils viennent remplacer. Oui. Donc il faut du temps et je pense qu'ils n'ont pas assez remplacé petit
la
à petit. Et là, ils vont devoir faire tout d'un coup comme le Real l'année prochaine.
Le problème, c'est que par rapport au Real, le Real a peu recruté. C'est-à-dire qu'ils ont recruté comme ça un petit peu, mais pas tant que ça. Le Bayern, c'est une équipe qui, tous les ans, fait venir 2-3 joueurs à peu près. Ils en perdent 2-3 joueurs, ils en font venir 2-3. Le problème, et c'est là où les éléments tournent pas dans leur sens pour la première fois depuis 7 ou 8 ans, c'est que soit leurs joueurs arrivent et sont pas au niveau, soit ils se blessent. Tolisso, il jouait, il était performant, il se blesse. Kingsley Coman, qui était là pour jouer sur un côté, il arrive, il se blesse. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Kovac, il est obligé de refaire jouer ben, soit Robben et Ribéry, il est obligé de remettre Javi Martinez devant la défense, c'est soit des joueurs vieillissants, soit des joueurs qui sont pas au niveau. Et ça aussi, ce sont des éléments de contexte qui font que le Bayern ben, a moins de chances que sur les années précédentes. Oui. On parlait de Lewandowski, Lewandowski continuera de marquer des buts, mais c'est un grand attaquant. Mais si vous prenez le match de Düsseldorf ce week-end, l'action qu'il a à 3 minutes de la fin qui rate, l'année dernière ou il y a 2 ans, il la met. Et c'est tous ces trucs-là qui tourne pas en faveur du Bayern cette année. Peut-être qu'il faut changer de cycle et peut-être qu'il faut changer une partie des joueurs.
Et surtout,
Le fait de prendre des buts, Naïm, parce que rappelle-toi le Bayern, on a vu le Bayern parfois en difficulté ou avec des moments de moins bien. Mais là, ils prennent des buts, c'est incroyable. Encore 3 buts ce week-end à domicile. C'est-à-dire que lorsque ces machines sont enrayées, t'as toujours l'impression que la structure, elle reste forte. C'est-à-dire que une équipe va être capable peut-être pendant 4 ou 5 journées de ne gagner que 1-0, de faire le dos rond et d'attendre de retrouver un petit peu cette plénitude offensive.
Je suis d'accord, Habib. Mais tu sais, c'est pour ça que moi je te dis que ces joueurs-là attendent qu'une chose, c'est que Kovac dégage, parce que c'était exactement la même chose avec Ancelotti. Rappelle-toi le match allant Ligue des Champions contre le PSG. Tu vois des trucs, tu dis c'est pas possible défensivement machin. Youpenkes revient, c'est une équipe qui ne prend plus de but. Moi je suis sûr que si vous faites partir Kovac ou vous faites revenir un entraîneur qui a l'adhésion du vestiaire, je ne dis pas que cette équipe qui paraîtra de prendre des buts, je dis qu'elle en prendra quand même beaucoup moins.
Peut-être, mais il y a un problème aussi, vous parliez des absents, effectivement, ça joue pas en faveur du Bayern, mais un club comme ça, un club aussi riche, un club aussi installé, il doit avoir les postes doublés et ne pas être à la merci d'une absence. Ça, c'est aussi un problème.
D'abord, le Bayern ne dépense pas beaucoup d'argent dans le recrutement, historiquement.
Un petit peu différent.
Et deuxièmement, il a changé, Naïm. Dépenser aujourd'hui est un problème pour un club riche. C'est un problème parce qu'on ne peut pas, si le Bayern n'achète que des jeunes joueurs en devenir, les supporters seront pas contents.
Manchester City dépense beaucoup d'argent. Est-ce qu'il est champion d'Europe? Est-ce qu'il est champion d'Angleterre tous les ans?
C'est pas un club historique.
Mais ça a tout à voir. C'est un club qui dépense.
Manchester City, c'est rien.
Je ne te parle pas d'histoire, Patrick. Je ne te parle pas d'histoire. La Juve dépense beaucoup d'argent au quotidien. Est-ce que la Juve dépense beaucoup d'argent au quotidien? Est-ce qu'ils sont champions d'Europe? Non.
C'est un club historique.
Donc c'est pas une question de dépenser beaucoup d'argent pour gagner des titres.
Ans,
et ben c'est tout. C'est Paris dépense beaucoup d'argent. Ils sont pas champions d'Europe.
Paris n'est pas un club historique non plus.
Bon, on vous mettra pas d'accord, mais Habib, une chose, l'ombre de Arsène Wenger. Est-ce que ça serait un bon choix pour sauver la saison de ce Bayern qui est déjà à 9 points du Borussia Dortmund?
Mais je pense que tout est sauvable, mais Arsène Wenger est dans une optique de construction. C'est un entraîneur que vous faites venir pour de nombreuses années. Mm-hmm. Je suis pas sûr que ça soit un entraîneur qui soit capable pendant un an ou deux relancer une équipe. C'est pas du tout dans son ADN.
Mais
ils
l'ont beaucoup fait là ces derniers temps aussi le Bayern avec Enkes.
Je sais pas. Je pense que Arsène Wenger est quelqu'un qui va en profondeur, qui essaye de mettre en place des choses et que je suis pas sûr que ça soit l'homme de la situation. Il est omniprésent. Il a besoin de tout gérer. Après sa qualité n'est plus à démontrer, hein. C'est sûr que si Arsène Wenger venait arriver au Bayern de Munich, ça serait pas une mauvaise chose pour le Bayern, mais je crois qu'il a besoin de plus de temps.
Il parle déjà la langue du pays, c'est bien.
Oui, aussi.
Ouais. Et son côté alsacien.
Il n'y a pas la place pour un mec comme ça. Honnêtement, c'est Rummenigge qui contrôle trop de choses. C'est un manager, il veut tout gérer, Wenger.
Oui, et puis notamment sans doute s'attacher au recrutement. Moi, j'aurais une dernière question. Est-ce qu'elle est devenue plus concurrentielle, cette Bundesliga? C'est-à-dire, on voit le Bayern qui est donc en 5e place, mais on voit des clubs qui, ces dernières années, apparaissent plus dans le haut du classement. Alors, le Borussia Dortmund, on le sait, on en a beaucoup parlé dans Radio Foot. C'est notamment grâce à son entraîneur, Lucien Favre, mais qui se trouve dans un club, évidemment, même avec Tuchel et avant avec Klopp, qui trustait la première place, ou qui était le concurrent du Bayern Munich. Mais il y a le Borussia Mönchengladbach, par exemple, qui revient. Il y a Francfort, il y a Leipzig.
Elle est plus concurrentielle parce que le Bayern n'est pas au niveau. Si le Bayern demain retrouve son niveau, recrute et se remet à repartir de l'avant, il aura logiquement le statut de favori de cette Bundesliga. Mais c'est bien d'avoir une Bundesliga concurrentielle. Et c'est vrai que derrière le Bayern, il y a toujours eu des clubs comme ça qui se disputaient. Bah, sauf que c'était pour les deuxième, troisième places. Là, c'est pour la première.
Mais malgré tout, Naïm, quand tu vois Dortmund, je crois qu'il y a eu 36 points de distribués dans cette Bundesliga. Ils ont déjà 30 points. Donc quoi qu'il
arrive,
c'est-à-dire que même si le Bayern était à son meilleur niveau, oui, de toute façon, aujourd'hui, Dortmund est un vrai concurrent.
Dortmund, c'est
à
un vrai concurrent.
N'importe quelle hégémonie en Bundesliga.
C'est un vrai concurrent. Aujourd'hui, le 27 novembre, est-ce que ça sera encore le cas dans un mois ou deux?
C'est une certitude. Après, il faut même plus tout jeter aux orties. Le Bayern est premier aussi de Ligue des Champions, donc dans son groupe de Ligue des Champions.
Oui. Mais moi, je trouve surtout que ça montre que ces clubs-là que vous avez cités travaillent bien. Le recrutement estival du Borussia Dortmund, ils ont quand même changé la moitié des postes de titulaires de l'équipe. Il y a presque pas une erreur. C'est que des réussites pour des prix.
Bah d'ailleurs, le Bayern aime bien
excessif.
Les piller de temps à autre,
oui,
hein, n'est-ce pas?
Mais Mönchengladbach, c'est pareil. Il y a Alassane Plea qui arrive de Nice, que je connais bien. C'est une grande réussite. Et pareil dans d'autres clubs comme Hoffenheim. Il y a quand même des choses qui se passent qui sont intéressantes. Leipzig qui a mis en place une filière avec
Thorgan Hazard, le frère de
absolument,
hein, qui tous les deux ont 8 buts et sont parmi les meilleurs buteurs du championnat.
Thorgan Hazard, il y a Lars Tindall, il y a Neuhaus qui vient de Düsseldorf qui a un milieu magnifique. Je sais pas s'il gardera tout le temps le même niveau, mais c'est vraiment un joueur à suivre parce qu'il est formidable.
Donc, et il y a Ibrahima Traoré, le capitaine du Sili National de Guinée aussi, il faut pas l'oublier.
Les et puis Francfort, les deux meilleurs buteurs du championnat actuellement, un français, Sébastien Haller, et puis le serbe Luka Jovic qui a une vingtaine d'années.
Bah, il a 20 ans tout juste, 18 buts à eux deux, c'est le duo le plus efficace de Bundesliga.
Et Francfort est premier de son groupe d'Europa League.
Alors ouais. Sébastien Haller qui pourrait encore opter pour la Côte d'Ivoire. Il est éligible pour jouer pour les éléphants.
Cette Bundesliga, c'est là qui va être intéressant, c'est de voir comment les clubs qui sont engagés sur plusieurs tableaux vont réussir à gérer ça. Parce que Dortmund et Francfort sont engagés en Ligue des Champions, en Ligue Europa. Alors que Mönchengladbach, ils n'ont que le championnat. Ils se sont fait sortir 5-0 en Coupe d'Allemagne.
Mais on a Hoffenheim qui est juste derrière le Bayern qui est aussi en Ligue des Champions.
Oui, mais qui peut retomber en Ligue Europa. Donc c'est des équipes qui auront des calendriers européens au printemps par rapport à Mönchengladbach.
Mais le Borussia a un gros effectif. Ils ont beaucoup recruté. Les postes sont doublés.
Juste
ils peuvent aller loin.
Borussia Dortmund.
Oui,
juste
absolument.
Parce qu'on parle, on enterre un petit peu quand même le Bayern Munich. Il est aujourd'hui à 9 points. Faut voir comment Mönchengladbach et Dortmund vont gérer les périodes de moins bien.
Il faut qu'ils finissent parmi les quatrièmes pour être
jusqu'à
en Ligue
présent
des
tout roule pour ces équipes là, mais à un moment donné dans la saison il va y avoir 2-3 matchs où ça va être moins bien. Comment ils vont rebondir sur ces périodes?
Habib, ce qu'on peut voir aussi dans ce classement actuellement, il y a eu quand même 12 journées de jouer dans ce championnat, c'est que les clubs, alors par contre qu'on avait l'habitude de voir en haut de classement derrière le Bayern, à savoir par exemple Schalke 04, aussi le Bayern Leverkusen, ils ont un peu disparu. Là, ils sont entre la 12e et la 14e place.
Oui, mais en même temps, c'est peut-être aussi une bonne chose, ce renouveau de la Bundesliga, parce qu'on se rappelle que l'année dernière, on parlait des clubs allemands en grande difficulté. Hoffenheim s'était fait sortir par Liverpool en tour préliminaire de Ligue des Champions. On avait vu un niveau de tous ces clubs allemands assez faible.
Et puis,
même
y avait
dans toutes ces compétitions, il
n'y
avait pas de suspense. Mm-hmm. Donc, c'est bien que la Bundesliga se rafraîchisse un petit peu, qu'on voit de nouvelles équipes. Le recrutement a été bon dans ces équipes-là. Après, je suis de l'avis de Naïm, on sait toujours que dans le fil d'une saison, ça se rééquilibre et en général, les gros reviennent parce qu'il y a cette institution, il y a cette
club
qui leur permet de gérer les périodes difficiles aussi.
Tu peux avoir une saison comme ça de transition, mais si le Bayern l'année prochaine prend les 2-3 meilleurs joueurs de Dortmund, les 2-3 meilleurs joueurs de Mönchengladbach, il va se refaire une équipe au top pour 4-5 ans et il va redevenir champion d'Allemagne.
Faudra prendre un bon entraîneur avec aussi.
À noter aussi qu'aujourd'hui est sortie la condamnation de l'homme de 29 ans, hein, le terroriste qui avait procédé à cet attentat contre le Dortmund, le bus des joueurs, on s'en souvient, alors qu'il devait jouer contre Monaco à l'époque en Ligue des Champions, 14 ans de prison au bout d'un procès de 11 mois, alors que l'État, on va dire, le procureur avait requis la perpétuité pour l'auteur donc de cet attentat. Le Sénégal sera de la prochaine CAN en juin 2019 au Cameroun. Et les Lions de la Teranga seront emmenés par leur sélectionneur, l'ancien joueur, l'ancien camarade de jeu de Abibey, à savoir Aliou Cissé. Mais un débat a surgi ces dernières heures, ces derniers jours à Dakar. Faut-il déjà renouveler le contrat du sélectionneur? Doit-il être reconduit avant même la compétition africaine, celle dite du Sénégal là-bas, celle qui doit enfin voir le Sénégal, eh bien au moins aller jusqu'en finale? C'est ce que veulent croire les supporters. Alors, c'est une question délicate qui se pose souvent dans les fédérations, on le sait. Là, la fédération, c'est évidemment par la voix de son président, Augustin Senghor, qui défend le renouvellement du contrat, alors que le ministère des Sports et son ministre, Matarba, eh bien, aurait mis son veto à ce renouvellement. Déjà, il préférait attendre la CAN 2019. Qu'est-ce que vous en pensez, Habib? Est-ce qu'il y a comme ça besoin d'avoir cette course pour dire on re-signe quelqu'un?
Non, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une course. Après, c'est aussi en fonction des intentions de votre sélectionneur.
Des
parce
choix.
Que si Aliou Cissé s'inscrit dans la longévité avec cette équipe, bien sûr qu'il faut le re-signer avant. Le vrai problème, c'est que on l'avait vu avec aussi Didier Deschamps, où certaines personnes
exact.
S'étaient offusquées de le voir re-signer avant
la Coupe du Monde.
Avant la Coupe du Monde, et on se rend compte qu'à la fin de cette compétition, il est champion du monde. Donc on se dit que ça valide un petit peu les choix de la fédération française.
Mais on se souvient que par exemple, le sélectionneur allemand avait re-signé aussi avant la Coupe du Monde, et puis il y a eu beaucoup de critiques.
Sénégal veut prendre le risque de devoir payer des indemnités, très bien. Non, moi, je suis totalement contre cette signature.
Mais
le
problème, c'est qu'on part toujours dans un principe d'argent. Il faut aussi partir dans une logique sportive et une logique de confiance par rapport au sélectionneur que vous avez à votre disposition. C'est-à-dire, dans quel état d'esprit tu mets les joueurs si les joueurs savent que à la fin de cette compétition, le sélectionneur s'en va.
Ah bah non,
parce que de toute façon, les joueurs.
Habib, ça veut pas dire qu'il s'en va. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr de rester. C'est
très
simple.
Ça veut dire que tu lis.
Ça lui met quand même une énorme pression sur les épaules.
Mais tu lis l'avenir
normal,
en fait d'un sélectionneur
sport.
Par rapport à un résultat.
Mais c'est du sport.
Mais
non, mais sport, on vise un résultat, on vise une victoire.
Je te dis pas le contraire, mais ça veut dire qu'aujourd'hui tu dis aux joueurs, écoutez, c'est soit vous gagnez la Coupe d'Afrique des Nations. Soit votre sélectionneur s'en va.
C'est exactement ça.
Moi, j'ai été joueur de foot. Lorsque mon sélectionneur n'était pas sous contrat et qu'il n'était pas renouvelé, je me disais, j'étais tributaire en fait de l'avenir.
Chèque en blanc au sélectionneur.
C'est pas donné forcément un chèque en blanc. C'est qu'à un moment donné, tu dois essayer de sonder ce sélectionneur, de savoir ce que lui a comme intention. Si son intention c'est de continuer avec les Lions, justement jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar, et ben tu te dis, bien sûr, je le re-signe parce qu'il va travailler un petit peu dans la longévité, dans la continuité de ce qu'il fait déjà. Si tu estimes que ce sélectionneur n'est pas forcément investi après la Coupe d'Afrique des Nations, alors là, oui, tu prends la décision de ne pas le re-signer. Mais je te dis, moi, j'ai été joueur. Le signal que tu envoies à une équipe c'est quand ton sélectionneur ça. N'est pas renouvelé, tu lui dis à cette équipe, si vous ne gagnez pas la Coupe d'Afrique des Nations, ce sélectionneur s'en va. Donc toi, en fait, tu es investi d'une mission de dire, je tiens aussi dans mes pieds l'avenir de mon sélectionneur.
Sportivement, tu trouves ça anormal.
Je ne dis pas que c'est anormal, je te dis que ça modifie ton approche psychologique.
Non seulement,
j'ai été joueur, Patrick, non
seulement,
je te le dis.
Attendez, Patrick, Naïm.
Non seulement ça lui met une pression terrible sur les épaules parce qu'il sait qu'en cas de défaite et d'élimination précoce, il part. Mais en plus de ça, quelle image ça donne à ses joueurs? C'est-à-dire qu'en gros, c'est je n'ai pas suffisamment la confiance de ma fédération et de mes dirigeants pour qu'on me prolonge avant la compétition. Et ça, les joueurs le savent. Alors, il y a ceux qui vont adhérer parce qu'ils l'aiment bien et puis qui pensent à leur carrière. Puis il y a ceux qui vont se dire, ah, moi, il me fait pas jouer, ou il me fait pas jouer à ma place, ou j'ai pas des super relations avec lui, ou je suis en concurrence, machin, tout ça. Peut-être que je vais galvauder le truc. Ça crée une atmosphère, à mon avis, néfaste quand on aborde une compétition où on fait partie, en tout cas, des favoris.
Oui, Patrick, alors vous, le réquisitoire contre.
Moi, ce principe de prolonger un sélectionneur avant une compétition, on est dans du sport. On vise des résultats. Là, on ne parle pas du Zimbabwe ou des Diables Rouges du Congo. On parle du Sénégal, qui est une des meilleures équipes africaines des 4-5 dernières années, qui a joué la Coupe du Monde, qui a été sans doute le meilleur représentant du continent
africain
au Mondial. On parle pas d'une équipe qui vient pour participer et dire on vient pour apprendre. On parle d'une équipe qui a déçu par son résultat, pas par son jeu lors de la dernière CAN, en se faisant sortir par le Cameroun qui était à sa portée. On parle d'un coach qui est installé quand même depuis 5 ans, si je me trompe pas, à la tête de l'équipe. Maintenant, il faut qu'il y ait un résultat pour le Sénégal. Il y a une bonne génération. Il y a sans doute un des 2 ou 3 meilleurs joueurs africains actuels dans l'équipe, Sadio Mané. S'il gagne pas la CAN, je suis désolé, il aura été en échec.
Je vais t'interpeller. Alors, je suis d'accord avec toi parce que je pars du principe que le résultat, en quelque sorte, de gagner une compétition valide un petit peu aussi le travail de tous ces entraîneurs. Mais n'oublie jamais que dans une compétition, il y a qu'un vainqueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 3 ans, c'est le Real Madrid qui gagne la Ligue des Champions et tu peux pas considérer que tous les gens qui jouent cette Ligue des champions
et
que tout le monde est en échec.
Le problème, qui font une bonne CAN, je dis pas qu'il doit être viré
donc,
après.
Et je vais te donner juste une petite anecdote. Nous, en 2002, lorsque nous sommes partis jouer la Coupe du Monde en Corée et au Japon, on savait pertinemment, à 80%, que Bruno ne serait plus là après cette compétition. Et je peux te garantir que quand tu as dans ta tête en fait qu'une génération est en train de naître, et on peut considérer aujourd'hui que cette génération à l'UCC l'a amené en quelque sorte à maturité, et comme tout le monde le voit, cette génération doit être capable de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, et que tu te dis que t'es Sadio Mané ou que t'es Keita Baldé ou que t'es Cherou Kouyaté et que tu te dis ah mon entraîneur il sera peut-être pas là, nous en tout cas mais ça avait pas été un frein à notre compétition, mais ça influe sur l'aspect psychologique que tu as dans une compétition. Nous on souhaitait qu'une chose, c'était que Bruno reste. Quand il est parti, ça nous a coupé les jambes. En 2004, on a eu un autre sélectionneur et ça nous a coupé les jambes. Ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est important le signal que tu envoies à ton équipe par rapport à un sélectionneur. N'oublie jamais une chose, un sélectionneur, aujourd'hui, il arrive, il prend des joueurs. En général, ces joueurs s'identifient énormément à ce sélectionneur puisque tu sais que la vie en sélection et la vie en club n'est pas du tout la même. Et je pense que c'est important pour le Sénégal de savoir où ils vont pour les joueurs et où va Lucissé dans son travail. Parce que n'oublie pas une chose, c'est que s'il sent lui que sa fédération ou que le ministère n'est pas derrière lui, je pense que t'es pas investi de la même mission.
Le football est de plus en plus un sport d'image.
Oui, mais d'accord, mais imaginons que Lucissé soit prolongé avant la CAN, ok? Malgré ça, le Sénégal ne fait pas une bonne CAN, sort en quart ou voire avant. Est-ce que il pourra rester en poste après?
D'accord, bah je te fais la chose dans le même sens. Il est pas re-signé et il fait une très bonne CAN.
Et donc et à il la peut re-signer
après. À la fin de cette CAN, tu viens le voir et tu lui dis voilà, il gagne et à la fin de cette CAN, la Fédération Sénégalaise de football va venir et dire Aliou, voilà le contrat. Aliou, il dit quoi? Moi si je suis sélectionneur, je dis hé, messieurs, vous avez pas eu confiance en moi avant.
Mais non,
vous
allez pas avoir c'est comme ça. Est-ce que le niveau de jeu du Sénégal dans les éliminatoires suffit à donner un chèque en blanc à l'UCC? Pour
mais
moi,
aujourd'hui,
la réponse est non.
Aujourd'hui, maintenant, je te pose la question, Patrick. Dans 95% des gens qui travaillent dans le monde normal, et ces gens travaillent avec des CDI.
C'était 95%, il y aurait pas les problèmes sociaux.
Mais ce que je veux te dire, c'est que imagine si demain, je vais te la poser autrement, si à chaque fois que tu fais ton travail, tu sais que ton travail, t'as une épée de Damoclès au-dessus de la tête, si ton travail n'est pas fait correctement ou pas comme les gens qui t'emploient veulent que tu le fasses. Est-ce que tu vas travailler de la même façon?
Bah, ça dépend. C'est-à-dire, si j'ai des offres pour changer de travail.
Non,
c'est
ce que je te dis, c'est que je pense que pour aborder une compétition, il est important.
C'est de la théorie.
Que le sélectionneur soit dans les meilleures dispositions possibles.
Eh bien, j'imagine qu'il y aura des suites à cette discussion et on en attendra des nouvelles de Dakar. À signaler aussi une dernière information du côté de l'Afrique et cette fois, ça nous vient du Caire où une cour a finalement décidé de condamner l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, et son secrétaire général d'alors, le Marocain Hicham El Amrani, pour avoir violé les règles de concurrence pour ce qui était de la retransmission des matchs en Égypte. Condamné personnellement et chacun à 24 millions à peu près d'euros à verser.
Je pense qu'ils vont faire appel.
Non, mais c'était une affaire qui traînait depuis longtemps et c'est la CAF qui s'est retournée contre.
Les d'ailleurs. Relations entre l'Égypte et la CAF depuis.
La CAF qui a son siège
qui au Caire. Qui a son siège au Caire d'ailleurs. Pourquoi l'Égypte, la CAF a encore son siège au Caire aujourd'hui, c'est une question. Bon, mais ça a rien à voir.
Mm-hmm. Elle avait été en gros, ils avaient été accusés d'avoir favorisé
Lagardère
Sport, qui retransmettait ces matchs pour
l'Égypte. Et c'est pour ça qu'en par mesure de rétorsion, les joueurs égyptiens ne parlaient qu'à une chaîne pendant la CAN 2017 et à aucune autre chaîne qui était badgée Lagardère. Pour eux, c'était illégitime et ça pourrissait un peu les rapports. Moi, j'ai pas les éléments du dossier, mais bon, ça me paraît démesuré en termes de financiers, en tout cas.
Une condamnation très lourde et sûrement, effectivement, il y aura des suites judiciaires. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup. Merci à Habib, Patrick et Naïm d'avoir débattu aujourd'hui. Merci aussi à Louis Lafargue qui m'a aidé à préparer l'émission, ainsi que tous nos stagiaires Samuel et Anton. Merci aussi à Laurence Erlerno qui était à la réalisation. Et on vous donne donc rendez-vous dans la deuxième édition de Radio Foot tout à l'heure à partir de 21h10 en temps universel. On reviendra sur les matchs de la soirée et nous retrouverons notamment Cédric de Oliveira et aussi Olivier Pron du côté du Ghana. À tout à l'heure.